Nous allons regarder un extrait de vidéo qui correspond au thème de ce matin. On envoie la vidéo, Nathan.
Mais qu'est-ce qui se passe?
On va faire jeter pour Brandouille.
Voilà ce qui se passe.
Tu as besoin d'aide?
Ben, ça va.
Attends. Alors, je vais beaucoup te manquer.
Si je réponds non, j'aurai quand même ta chambre?
Non.
Oh, c'est un véritable cauchemar.
C'est quoi ce bruit?
Oh. Andy!
Oh.
Pas à la poubelle! Pas à la poubelle!
Voilà. C'était sympa, hein? Oui. Qui connaît? Oui. Ça va, les autres, vous ne connaissez pas, ben vous allez suivre. En réalité, c'est en relisant l'histoire du soldat de plomb de C.S. Lewis que l'idée m'est venue d'apporter ce message. Je prie pour qu'il nous édifie. Hein. Vous avez reconnu donc l'animation des studios Pixar, hein, Toy Story. Hein. Alors, enfant, qui n'a pas rêvé de voir ses jouets préférés vivants? On l'a fait, non? À un moment donné, on y a même cru. Hein, voilà. Mais cette idée n'est pas nouvelle. Hein, ce n'est pas les studios Pixar qui ont inventé cette idée. En 1881, quelqu'un avait cette idée, il s'appelait Carlo Collodi. Et vous connaissez bien Carlo Collodi? C'est le papa de Pinocchio. Eh oui. Hein. Donc, Toy Story... va nous accompagner ce matin pour vous parler de quel thème? Le tri sélectif, non? C'est pas ça. Hein? Vous avez une idée? Le mensonge, non? Ah, Pinocchio, oui, mais on revient sur Toy Story. Oui. Hein? Non, pas l'abandon. Je vais vous parler de la sanctification. C'est bizarre, ça. Comment on va faire ça, hein? On y va. Hein? Voilà ce que l'apôtre Paul écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au reste, dit-il, frères, on pourrait ajouter sœurs, hein, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Vous savez en effet quelle recommandation nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Le texte est clair. Paul est clair. Hein? Donc, nous allons voir bien d'abord ce que signifie la sanctification et puis quelques principes qui est lié à la sanctification. Et puis, ben, la question, c'est quel état de perfection pouvons-nous atteindre, hein, ou de sanctification? Ces mots-là sont interchangeables. Ce que Paul nous dit, c'est qu'il parle de sanctification, mais on va situer où se trouve cette sanctification. La parole de Dieu nous convainc que le but de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, n'est-ce pas? Dieu veut, Paul écrit à Timothée, que tous les hommes soient sauvés. En réalité, Dieu veut nous offrir un avenir éternel. Il veut nous recevoir dans son royaume et désire que nous évitions une vie entière en enfer. Tu avais peut-être la notion d'un Dieu, peut-être même le Dieu de la Bible, parce que tu es né dans une famille chrétienne, mais à un moment donné, ou peut-être ça s'est inscrit dans le temps, il a fallu te positionner, te préparer à changer totalement d'optique. reconnaître que tu t'es gravement trompé dans tes choix, dans ta vie, dans ton but, et changer de camp pour rejoindre le camp de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors la solution était de revenir au Créateur, par qui ? Par un seul. Nul ne vient au Père que par moi. On ne peut accéder au Créateur que par Jésus. Et j'espère que chacun de nous ce matin peut dire qu'il est sauvé, peut dire qu'il est revenu au Père, peut dire qu'il est passé par Jésus. Oui, par Jésus, nous avons été sauvés, rachetés du monde des ténèbres. On devrait juste peut-être s'arrêter et avoir 2 heures de louange pour ça. C'est vrai, on pourrait le faire. Alors, comment cela a-t-il pu se réaliser ? Eh bien, voilà ce tableau de Goya. Si vous avez ça chez vous, vous êtes millionnaire. Voilà. Mais c'est dans un musée. Ou alors, vous en avez un faux. OK. Donc, en réalité, Dieu l'a réalisé pour les hommes. Alors, quand j'étais jeune, des fois, j'entendais des prédicateurs qui parlaient de la croix de Golgotha. Et en réalité, le mot Golgotha me gênait un peu. Je ne savais pas trop ce que ça faisait là. C'est important. Pourquoi ? Parce que Golgotha est un lieu réel. Nous parlons d'une époque réelle, de personnages réels. Nous parlons d'une histoire vraie. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé dans un studio pour venir nourrir notre espérance. Il y a une chose qui est sûre. Voilà, Christ est mort pour nos péchés. Eh oui, c'est sur l'église de Saint-Antoine. Évidemment, Christ est mort pour nos péchés. Il y a une... C'est estampillé. Pour que nous soyons sûrs que nos péchés sont effacés et ainsi la vie de l'Esprit est mise en nous. L'Ancien Testament nous transmet cette même pensée. Dans la loi de Moïse, il y a une loi qui dit ceci, Exode 29, 37. L'autel sera très sain et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Ça veut dire qu'il y avait un autel où il y avait des sacrifices qui se faisaient dessus et tout ce qui touchera l'autel sera consacré à Dieu, sera saint, une chose très sainte sera réservée à mon service, dit le Seigneur. Donc on ne touchait pas l'autel n'importe comment et n'importe qui ne pouvait pas toucher cet autel. Si quelqu'un le faisait, il était mis à part, il était considéré comme sacré pour Dieu. Et s'il était indigne, s'il restait dans son indignité, il était frappé par Dieu. C'est ce qui t'est arrivé quand tu t'es converti. Quand nous sommes convertis, nous avons été mis à part, sanctifiés. C'est le témoignage de ton baptême. Tu étais mort et tu reviens à la vie et tu es à Dieu. J'espère que cette question du baptême ne vous gêne pas. Si quelqu'un est en train de se poser des questions, dois-je faire ou pas me faire baptiser, si tu t'es converti, passe par cette obéissance du baptême. Nous étions charnels et nous sommes devenus spirituels. On l'oublie parfois. Et ce n'est pas de l'orgueil. Parce qu'en réalité, devenir spirituel, demande beaucoup d'humilité. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas basé sur nos mérites. Nous n'avons rien fait. C'est Dieu qui nous a visités. Tu n'as plus besoin de gagner la faveur de Dieu, à vouloir lui plaire, parce que tu es devenu l'objet de sa faveur. C'est cela, être sanctifié, mis à part. Tu appartiens donc à Dieu. Et comme c'est joué dans Toy Story, tu appartiens à quelqu'un. Et que fait le petit garçon Andy ? Il écrit son nom sur ses jouets favoris. Mais que fait Dieu ? Dieu fait la même chose avec nous. Apocalypse 14, il est dit qu'il est question de ceux, des 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. 2 Corinthiens 1, 22, l'apôtre Paul nous dit, il nous a aussi marqués par le sceau. C'est-à-dire, nous sommes sa propriété. Et il a mis dans mon cœur les arts de l'esprit. Et c'est pourquoi, n'attristez pas le Saint-Esprit, dit Paul, de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce n'est pas la peine de regarder sous la semelle de ta chaussure si Dieu a marqué ton nom, comme dans Toy Story. mais dans ton cœur et dans ta vie, le nom de Dieu est inscrit. Nous lui appartenons, tu lui appartiens, et désormais, ben, tu ne peux pas vivre, je ne peux pas vivre comme je le veux, mais je dois vivre comme lui le veut. Et si Dieu nous a acceptés tels que nous étions, il est évident qu'il va vouloir nous changer, parce que c'est son objectif. Ta sanctification a commencé le jour où tu t'es donné à Dieu. Il y a la naissance, on est content, on se réjouit quand on apprend une naissance dans une famille. Hein? Mais l'enfant est appelé à grandir, à croître. La nouvelle naissance, eh bien, est appelée à se développer. Ce développement a le nom de sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors, on va voir maintenant quelques principes de cette sanctification. À quoi elle renvoie? Tout d'abord, ta sanctification va à l'encontre de ta nature première. Ah, et ça, on l'oublie. Hein? Vous avez remarqué, pour ceux qui connaissent Toy Story, alors pour ceux qui n'en connaissent pas, regardez-le. Hein? Moi, j'ai amené mes enfants quand ils étaient petites. En fait, je crois que je me suis plus régalé qu'elles, bon, c'est pas grave, mais c'est normal. Hein? Voilà. On est tous des grands-enfants, non, quelque part. Alors, dans Toy Story, vous avez remarqué que les jouets prennent vie instantanément et puis redeviennent jouets inertes dès qu'il y a un adulte dans les parages, hein, ou un être humain. Hein. En réalité, il y a quelque chose de pas tout à fait juste là-dedans. Parce que ces jouets ne souffrent pas de prendre vie et ne souffrent pas de retourner à l'état de jouet. On les voit même heureux de prendre vie. Mais si cela devenait possible, serait-il vraiment heureux? Ne devrait-il pas plutôt souffrir parce qu'ils sont en train de devenir autre chose? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un parallèle avec la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, l'homme charnel, inerte aux choses de Dieu, ne peut pas être heureux de devenir autre chose. Dans sa nature, notre homme charnel est son propre Dieu. Et en réalité, l'homme charnel déteste tout ce qui pourrait nous faire ressentir son imperfection, son égoïsme, son orgueil, sa médiocrité. Il déteste vivre pour Dieu parce que c'est contraire à sa première nature. Il est enfermé dans cette condition et il a besoin d'en être libéré. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et notre être charnel nous dit, ce que moi je veux, c'est ma satisfaction. Il y a un combat qui est là. Hein? Donc la sanctification se fait dans la souffrance, parce qu'elle n'est pas facile. C'est un processus qui va à l'encontre de notre nature première. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu est de vouloir m'approcher de plus en plus de sa volonté, afin que nos deux volontés se rencontrent et ne deviennent qu'une. Et ça, mes frères et sœurs, ça ne fait pas toujours plaisir. Hein? Ça ne fait pas toujours, vous savez, on n'est pas toujours à l'aise avec ça. Hein? Jésus le dit clairement. À la fin du chapitre 5 du Sermon sur la montagne, qu'est-ce qu'il dit? C'est clair. Soyez parfaits comme qui? Ben, la semaine prochaine, hein? On va faire ça toute cette semaine. On va essayer d'être parfaits. Waouh, je crois que je vais prendre des cachets, je vais dormir pendant 7 jours. Hein? Aïe, eh oui, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. En fait, Jésus réaffirme une idée qui existe dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Lévitique, Dieu dit à Moïse, parle à toute la communauté des Israélites et tu leur diras la même chose. Soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. C'est ce que Paul nous dit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et Pierre dit, afin de vivre, non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu. Donc, il y a un principe, c'est que cette sanctification en nous, que Dieu produit, elle ne va pas dans le sens de notre nature première. La deuxième des choses que l'on pourrait dire, mon principe, c'est que cette sanctification, ta sanctification, a un coût. Il ne faut pas le négliger. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut mener une bataille ou construire, il doit s'asseoir et il doit réfléchir. Quand quelqu'un vient à Christ, il faut lui expliquer que ça a un coût. Quel est le coût? Eh bien, vous savez, c'est le principe de perdre pour gagner. Hein? Qui perd sa vie, il la gagnera. Ce principe existait dans l'Ancien Testament. Dieu voulait que son peuple soit un peuple saint, à part. Et qu'est-ce qu'il demande à son peuple? De perdre. Mais qu'est-ce qu'il devait perdre? Des choses très concrètes. Par exemple, quand ils devaient moissonner, ils devaient laisser une partie de leur champ pour que les plus démunis puissent glaner. Ben, c'est quand même perdre du bénéfice, là, non? Ben oui, ils auraient pu tout engranger. En fait, perdre aussi dans le sens d'être honnête. Les poids devaient être justes. Ben, on perd un peu quand les poids sont justes. Oui, mais il fallait perdre pour Dieu. Payer sa dîme. Mais c'est une perte, payer sa dîme, même aujourd'hui. Eh bien, il fallait perdre pour gagner. Observer le jour du sabbat, je pense que pour un propriétaire terrien, c'était compliqué. Tout doit s'arrêter. Même les esclaves ne devaient pas travailler. Perdre pour gagner. La sanctification a un coût. Être mis à part par Dieu et pour Dieu a un coût. Ce n'est pas chose facile. Vivre selon sa volonté a un coût. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous avez appris, ça s'apprend. Comment vous devez marcher et plaire à Dieu? Et il ajoute, d'ailleurs vous le faites. Hein? Elle est aussi, cette sanctification, comparée à une marche qui nous engage sur un chemin étroit. Et un chemin étroit, à mon avis, on a une belle illustration avec les chemins de montagne. Il faut vraiment marcher dans les clous, n'est-ce pas? Avec des endroits où nous pourrions nous tordre une cheville, glisser sur un rocher, nous faire mal. Le Nouveau Testament utilise cette marche. Marcher par l'Esprit, marcher d'une manière digne du Seigneur, marcher comme des enfants de lumière, avec des douleurs, parce que tu dois t'attendre quotidiennement à peut-être une chute, un découragement, une tentation, une sécheresse spirituelle. Et ils se présenteront tous les jours sur ton chemin. Raphaël Charrier dit ceci, cette lutte que tu mènes, qui a un coût, sera la preuve que Dieu a changé ton cœur. C'est là l'expérience de tout chrétien. Ils apprennent à mettre à mort le péché, à se laisser conduire par l'Esprit toute leur vie. Ce que Dieu veut, on ne va pas te l'épargner. C'est votre, c'est ta sanctification. Pour gagner en sanctification, en perfection, eh bien cela nous demande de perdre. Perdre notre confort, perdre notre esprit d'indépendance, perdre nos revendications, nos désirs d'avoir toujours raison, etc., etc. Ta sanctification est précieuse aux yeux de Dieu. Alors, ta sanctification dépend aussi des autres. Ah, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas dire « je vis ma vie chrétienne avec Dieu et sans les autres ». Eh oui, c'est une composante absolument indispensable. Jésus le dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et c'est tout et ça suffit. Non, il y a un commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Vous savez, c'est le principe de la biodiversité, hein? C'est pas nouveau, hein? La Bible en parle, cette biodiversité. C'est le principe du corps et de ses membres. Hein? Paul dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, voilà, ce principe, hein? De sanctification qui fait partie, donc qui dépend des autres, eh bien pour ce qui est de l'amour fraternel, nous n'avons pas besoin qu'on vous écrive, car vous êtes vous-même instruit par Dieu en vue de l'amour réciproque. Ça, c'est un point qui est important. Le péché nous amène toujours à vivre pour soi, pour moi, et ce moi aime être le centre d'intérêt. Hein? Et l'amour est la clé ou le baromètre qui va définir notre santé spirituelle. Hein? Alors, ce péché aime sa vie. C'est confortable. Il ne se soucie pas des autres, pas des priorités des autres. Il a ses objectifs, mais la vie spirituelle est tout autre. Malgré la différence de chacun, malgré nos différences, eh bien, nous appartenons tous un même corps. C'est ce que Paul nous dit. Revenons à nos personnages. Ils appartiennent tous à des jouets qui vivent dans une pièce. Nous avons, par exemple, voilà, le leader. Alors lui, c'est le chrétien qui a 3000 idées à la seconde. Hein, compliqué de suivre. Hein. Et puis, nous en avons un autre. Alors lui, il est très protocolaire. Il est carré, il est dans son monde, les choses doivent se passer comme ça. Et puis, nous avons le chrétien qui est toujours là, en train de soutenir ses frères. Hein. Et nous avons le chrétien avec un caractère très fort, qui pense toujours avoir raison. Et puis, nous avons le chrétien gentil. Alors lui, il est très gentil et très craintif. La moindre des choses le dépasse. Pourtant, il est costaud. Et puis, nous avons le chrétien fidèle, mais borné. Hein, c'est Monsieur Patate, lui. Hein. Et puis, nous avons l'école du dimanche. Voilà, tadam. Oui, toujours content de ce qu'on leur fait. Hein, sans se rendre compte que les animatrices, animateurs, passent des heures et des heures à leur préparer leur leçon. Hein. Il y a une chose qui est commune à ces jouets, c'est que ils ne supportent pas de vivre les uns sans les autres. Ça, c'est l'image de l'Église. Nous ne devrions pas supporter de vivre les uns sans les autres, même si nous sommes appelés à nous supporter. Hein. Nous avons tous notre caractère, nous avons tous notre personnalité, et nous sommes tous appelés à être transformés. Bien sûr, ce parallèle a des limites, hein. Mais est-ce que nous comprenons l'essentiel de cette image ? Tous ces jouets que nous voyons sont conçus et fabriqués par divers artisans, hein, dans divers lieux, dans diverses usines, avec des matériaux différents. Mais nous, nous sommes fabriqués par un seul artisan, avec le même matériau, fait de la même pâte. Alors, pour juste avoir une idée de ce que Dieu veut pour notre sanctification, qui dépend les uns des autres, eh bien, vous avez qu'à vous référer à la Bible et puis regarder, voilà, à chaque fois où les uns les autres est employé. Hein. Voilà, vous allez vous amuser ce dimanche après-midi. Hein. Bon, si vous le faites, vous aurez une récompense. Vous pourrez voir Pixar, donc, si vous l'avez, Toy Story. Hein. Eh oui, parce que le terme « les uns les autres » est absolument indispensable pour notre sanctification. Je ne peux pas supposer grandir, me développer avec Dieu sans les autres. Ce n'est tout simplement pas dans la volonté de Dieu. Un jouet, il peut rester seul dans un coffre. Absolument, il ne s'en plaindra pas. Non, il ne s'en plaignent pas les jouets, sauf si on oublie de les éteindre. Hein. À un moment donné, ils s'allument. Mais vivre seul, ça ne le fait pas souffrir. Mais le chrétien, lui, pas du tout. Il a besoin de la communion avec Dieu et de la communion avec ses frères et sœurs. Notre sanctification, ta sanctification, en réalité dépend de ton église locale. C'est une réalité. C'est ton église qui va t'influencer, ton église qui va t'aider, qui va te nourrir, qui va développer ta vie spirituelle. Notre rôle à chacun est de veiller les uns sur les autres et nous encourager à grandir spirituellement. Qu'est-ce que l'Église, si ce n'est le grand atelier de l'artisan Dieu délocalisé en milliers de petits ateliers? C'est cela l'Église. Dieu travaille ta vie. Et quand il travaille ta vie, c'est pour que tu encourages ton frère, ta sœur. Quand il travaille ma vie, c'est que je puisse encourager et être encouragé. Alors maintenant, nous allons poser une dernière question, c'est quel est le niveau que nous pouvons atteindre ? Quel état de perfection ou de sanctification pouvons-nous atteindre ? Au top de chez top, il y a des hyper-perfectionnistes. Hein ? J'en suis à 99,9, vous le savez ? Eh oui. Mais non, évidemment. Hein ? Je suis à 0,1. Mais non, il y a entre les deux où placer le curseur. Ce qui me rassure, c'est que Paul dit ceci. Alors, ce qui me rassure, ce n'est pas ça. Hein. Faites tout sans murmurer ni discussion. Vous avez l'air à l'aise avec ce verset. Hein. Bravo. Hein. Pour être irréprochable et pur, comme les enfants de Dieu, sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous devez briller comme des flambeaux dans le monde. Ça me rassure que Paul ait écrit ça. Mais ça me rassure aussi que Paul lui-même dit qu'il n'a pas atteint ce degré de perfection. Ah, merci Seigneur. Hein? Alors, mais nous pouvons tendre vers cette perfection. L'atteindre est une chose, mais tendre c'est l'état d'esprit. Et comment est-ce que nous pouvons tendre vers cette perfection? Eh bien, revenons au jouet. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Alors ça, c'est assez intéressant. Comment pouvons-nous devenir parfaits, tendre vers la perfection? Paul dit en imitant. En gros, pour qu'un jouet puisse être parfait, il faut qu'une fois en vie, il puisse agir, vivre, parler, manger comme un être humain. Et cela s'apprend. Jouer le rôle du vivant, vous trouvez ça prétentieux, absurde, réflexion de comptoir? En fait, ce n'est pas si bête que cela. En réalité, c'est ce que l'apôtre nous dit. Vous avez appris de Dieu à vous aimer. Comment je peux aimer? Je regarde le Seigneur et je l'imite. Paul dira dans Éphésiens, vous avez revêtu la nouvelle nature. C'est quoi revêtir? C'est se déguiser. Oui. Je prends le caractère de Jésus et je vais l'imiter, n'est-ce pas? Qui produit la sainteté. Revêtir, apprendre, être imitateur. Ce sont les expressions différemment utilisées dans le Nouveau Testament. Christ en moi, vivre en nouveauté de vie, revêtir Christ. Nous devons, en d'autres termes, nous déguiser en Christ. Faire comme si nous étions Jésus. On ne parle pas d'attitude hypocrite. Hein. Si vous vous levez demain à la cantine et qu'il n'y a pas le pain, vous n'allez pas prier, ça va y avoir la multiplication. Hein. Sauf si un camion de boulanger tombe en panne dans la livraison. Ça peut arriver, merci Seigneur. Hein. Vous savez, on dit souvent, que ferait Jésus à ma place? Hein? Que ferait? Mais la réalité, à mon sens, ce serait plutôt dire, comment dois-je réagir si j'endossais le rôle de Jésus? Je vais imiter Jésus. Est-ce que c'est surprenant? Mais en fait, c'est ce que font les enfants. Comment les enfants apprennent-ils à être adultes? Ben, ils nous imitent. Ils jouent à la marchande, ils jouent au professeur. Ils font des jeux de rôle et ils apprennent. Et vous savez que l'imitation est absolument extraordinaire. Hein. Il y a un pouvoir d'apprentissage à travers l'imitation. Mais que faisons-nous quand nous prions? Quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, qu'est-ce qu'il leur a dit? Voici la prière modèle. Notre Père. En fait, nous faisons comme Jésus. Nous appelons Dieu notre Père. En d'autres termes, ne sommes-nous pas en train de prendre sa place en tant que fils? C'est ça. Il est notre Père. Mais comment je peux dire notre Père à Dieu? Ben je fais, tu fais, comme Jésus. Pourquoi l'imiter lui? En réalité, parce que c'est le modèle parfait. Il a pris notre condition d'homme par Marie et il a pris la condition divine par le Saint-Esprit. C.S. Lewis disait ceci, « Le Fils de Dieu est venu, il est devenu homme pour que l'homme devienne fils de Dieu. » C'est la sanctification, que je puisse lui ressembler. Dans cette humanité, on pouvait toucher Jésus, on pouvait le serrer dans ses bras quand il était là, poser la tête sur son épaule, laver ses pieds à cause de la poussière qui les ont salis, apprendre, l'entendre respirer, même voir son corps inanimé descendu de la croix. C'est cela l'incarnation. Il est devenu comme nous. Il nous a imités. Et qu'est-ce que la sanctification? À nous maintenant de l'imiter. Être totalement sanctifié, c'est être totalement comme l'image du Christ, nous dit Paul. Dieu veut que ton cœur ressemble à celui de Jésus. Il veut que ta façon de vivre soit conforme à la sienne. Alors voilà, nous avons vu que la sanctification a des aspects différents. Ça commence par ton salut, et puis c'est Dieu t'a mis à part. Tu n'es donc pas n'importe qui. Cela va à l'encontre de ta nature première. Pour ça que des fois on souffre, on veut ceci, mais Dieu ne veut pas cela. Elle a un coût, elle dépend des autres et nous avons un modèle parfait qu'il faut imiter. Alors en conclusion, regardons ce que dit Paul. Paul redit aux Thessaloniciens, vous avez une vie spirituelle développée, c'est bien, eh bien, progressez encore. Ah, c'est-à-dire qu'il faut que nous progressions. Nous sommes toujours en étape après étape dans cette progression. Paul dit à Timothée, applique-toi, sois tout entier à la tâche que Dieu t'a donnée, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et la question que je peux te poser, que je me peux me poser, c'est mes progrès ont-ils été évidents pour tous ? Suis-je plus calme, plus patient, plus aimable, plus etc. Comme Christ, hein, notre part, c'est de faire nos efforts dans cette progression. Et lisez Thessaloniciens, hein, faites vos efforts. Et il donne des choses très concrètes. Hein, les rapports entre les frères et sœurs, les rapports avec le, voilà, les souillures du monde, etc. Faites tous vos efforts, nous dit l'apôtre Pierre. Hein. Ce n'est pas un effort pour devenir perfectionniste ou légaliste de ce qu'il faut, de ce qu'il ne faut pas. C'est un effort à aimer Dieu, à recentrer notre attention et nos priorités sur lui. Et il y a ce que nous faisons, mais surtout, et Dieu merci, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ça, c'est absolument indispensable. Dieu ne transforme pas une personne sans sa coopération, c'est clair, contre le péché. Hein. Mais le Saint-Esprit, eh bien, travaille pour notre croissance. Hein. Jésus travaille en nous. C'est ce que nous dit l'apôtre. Hein. Soyez transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous avons donc notre part, et Dieu travaille aussi, c'est sa part. Alors, je vous avoue qu'on peut être découragé par notre manque de progrès. On peut être découragé par ces péchés qui nous assaillent, qui nous écrasent, par nos transformations qui nous paraissent tellement lentes. Notre situation peut nous accabler. Hein? Mais il y a une chose qui est super, c'est que cette œuvre que Dieu a commencée, eh bien, il met une limite. Hein? La sanctification n'est pas une œuvre sans fin, comme dirait quelqu'un, vers l'au-delà et l'infini. Non! Un jour, nous serons parfaitement saints. Je suis persuadé, dit l'apôtre Paul, que celui qui a commencé en vous cette œuvre, une bonne œuvre, en poursuivra l'achèvement jusqu'à son retour. Retour de Christ. Ça me soulage. Hein, de savoir qu'il va y avoir une fin à tout cela et que l'on va devenir absolument parfait. Alors, Pixar nous raconte l'histoire de jouets qui prennent vie. Ceci, bien sûr, reste une illustration limitée, comme toutes les paraboles. Hein. Mais en réalité, je pense que Pixar s'est inspiré de quelqu'un. Il s'est inspiré de Dieu, qui lui a fait une œuvre encore plus merveilleuse. Connaissez-vous quelqu'un qui, de la poussière, a tiré l'être humain ? Connaissez-vous quelqu'un qui, des ossements séchés, a suscité la vie ? Connaissez-vous quelqu'un du ciel qui est venu sur terre ? Oui, on le connaît. C'est Jésus, c'est Dieu qui a fait cela. Il est allé encore plus loin. Il a fait de nous, pauvres pécheurs et misérables pécheurs, il en a fait ses enfants, saints. Alors, mon frère, ma sœur, que ta vie, que ma vie, que nos vies soient bouillonnantes pour lui, quel que soit notre âge, allons de progrès en progrès. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.